Radio Grand Ciel vous présente aujourd'hui la sixième émission de Demain les énergies. Au micro, Paolo Davi et Marc Blaiseau. Nos émissions sont enregistrées à distance et donc la qualité sonore peut parfois être moins bonne et nous vous prions de nous excuser. Dans notre rubrique Quoi de neuf, nous vous proposons aujourd'hui une nouvelle surprenante concernant une demande et une acceptation gouvernementale d'exploitation pour une mine de charbon au Royaume-Uni. Marc, peux-tu nous éclairer sur cette information ?
En effet, Paolo, ça nous a un petit peu surpris. Le gouvernement britannique a validé un projet de nouvelle mine de charbon souterraine dans le nord de l'Angleterre, en laissant les autorités locales, régionales, qui avaient d'ailleurs déjà donné un premier feu vert, se prononcer quant à l'accord final. L'objectif de la société australienne, charbonnière, est de débuter les travaux sur le site dès cette année, avec une production qui démarrait dans 18 mois à peu près, pour extraire 2,7 millions de tonnes par an, avec la création de 500 emplois associés, afin de fournir principalement les aciéries, hein, le charbon de coke dont on a déjà parlé, à la fois au Royaume-Uni et dans toute l'Europe, en fait.
Ah oui, d'accord.
Alors, c'est assez important. La société estime que ça pourrait remplacer pas mal d'importations réalisées depuis les États-Unis, la Russie et l'Australie elle-même. Donc on est très surpris quand même de l'ouverture d'une mine, j'allais dire au cœur de l'Europe, peut-être plus depuis le Brexit, mais au moins en Grande-Bretagne, alors que cette même Grande-Bretagne avait annoncé qu'elle voulait éliminer le charbon totalement de sa production en 2050.
Oui,
alors
oui,
ouvrir une mine aujourd'hui, c'est assez surprenant, mais bon.
Tout à fait.
Ça montre bien l'intérêt du charbon dont on a parlé à l'émission précédente.
Oui, tout à fait. Et disons qu'en plus, bon, il y a quelques aspects positifs, c'est-à-dire il y aura les transports des charbons qui sont réduits, mais c'est effectivement, on voit bien qu'il est très difficile de faire des arbitrages dans ces domaines. Nous allons donc continuer cette émission sans quitter le sujet du charbon. Lors de notre dernière émission, nous avons vu que grâce à la méthode de géophysique dite sismique, il est possible de reconstruire la géométrie des couches géologiques du sous-sol, et notamment des couches de charbon qui nous intéressent. Mais bien sûr, Marc, la connaissance de la géométrie des couches de charbon n'est pas suffisante pour développer et implanter une mine d'extraction.
Eh oui, pour devenir mine, comme tous les gisements d'ailleurs, pour être exploité, il faut qu'une couche de charbon soit d'épaisseur et d'extension géographique importante, suffisante au moins, ne soit pas trop profonde non plus en général, elle soit de bonne qualité, un bon pouvoir calorifique, peu d'eau, peu de soufre associé, tout ça pour assurer la rentabilité économique du gisement.
Ben oui, évidemment.
Aujourd'hui, ces mines sont très très mécanisées, hein, avec les fameuses haveuses, hein, on en voit quelquefois pour construire des tunnels, ces grandes roues dentées qui arrachent le charbon de la paroi, en avançant de plusieurs mètres à l'heure. Alors, ces mines sont soit à ciel ouvert, en général si la couche n'est pas trop profonde, quelques centaines de mètres, et puis souterraines, cela jusqu'à plus de 2000 mètres aujourd'hui. Alors, ces dernières, les mines souterraines, sont constituées grossièrement, hein, de deux puits et de galeries. Un puits principal qui relie la mine au jour, il y a dedans une cage d'ascenseur qui remonte les mineurs des centaines de mètres en quelques minutes, et puis qui remonte aussi le minerai, et puis en général, et toujours même un puits d'aération, qui est très important, hein, qui assure la circulation de l'air dans les galeries, qui évite les risques d'asphyxie, d'explosion, de poussière. Alors aujourd'hui, pour des raisons de sécurité et d'économie, aussi souvent on préfère les mines à ciel ouvert plutôt que les mines souterraines.
Ah oui, c'est compréhensible. En effet, nous ne pouvons pas parler de charbon et des mines sans parler d'hygiène, sécurité et environnement, tant pour les mineurs que pour les populations environnantes.
Tout à fait, Paolo. Alors, l'exploitation du charbon, ça reste un problème majeur, surtout dans les mines souterraines, tu as raison. D'abord, le charbon est associé à beaucoup de microparticules que respirent les mineurs, les poussières soit du charbon lui-même, soit des roches entourantes, souvent de la silice. Ce sont les fameuses maladies professionnelles de type anthracose ou silicose, hein, on parle souvent de ce terme-là, qui peuvent apparaître pendant, et puis c'est surtout grave après l'activité du mineur en général. Mmh. On estime par exemple à 35 000 personnes, 35 000 mineurs français, qui sont morts entre 1972 et la fin du siècle dernier de ce type de maladie, après avoir justement travaillé dans les mines de charbon françaises, qui étaient pourtant aux normes, hein, elles étaient bien ventilées, arrosées en permanence pour faire tomber sur le sol les galeries, ces particules, et pour ne pas les respirer. Mais bon, il y en a toujours un peu qui passent à travers les mailles de filet, comme on dit.
Oui, bien
Alors
sûr.
pensons à ce que doivent être aujourd'hui les maladies des millions de mineurs chinois, russes, sud-africains. Donc on estime que les maladies professionnelles dues à la seule extraction du charbon pourraient tuer 20 000 personnes par an sur les 20 ans qui viennent. Donc,
Oui.
une sacrée épidémie là aussi.
En effet, Marc, ces statistiques sont terribles et peut-être pas suffisamment connues par les gens, hein. En
Oui.
plus, il faut aussi compter tous les accidents directs comme les explosions liées au gaz de mine, les fameux grisous, les inflammations de poussière, les effondrements de galeries.
Eh oui, Paolo, car le charbon, bah, ça contient du méthane, hein, du gaz naturel, qui est piégé dans les couches de charbon, avec des teneurs qui peuvent être très importantes. Ça peut atteindre plusieurs mètres cubes à la tonne, et qui peuvent, donc, quand on l'extrait, bah, se concentrer dans les galeries et exploser, naturellement à la moindre, étincelle. C'est l'origine des plus grands accidents industriels, hein, en Europe comme en Chine. C'est ce coup de grisou, comme tu disais justement, avec ces cortèges macabres de dizaines de morts. Souvent, et d'ailleurs à juste titre, très médiatisé par la presse.
Oui, Marc. J'ai lu que même actuellement, les décès des mineurs travaillant dans les mines de charbon varient entre Australie et Chine de 0,02 à plus de 2 morts par million de tonnes extraites. On estime ainsi qu'il y aurait 10 000 morts par an dans l'ensemble des mines de charbon du globe. 10 000 morts par an direct, plus 1 000 morts par maladie professionnelle, c'est absolument considérable. Mais en plus, les particules fines se déplacent dans l'air autour des mines, pendant les transports du charbon et aussi lors des manipulations et de la combustion dans les usines, et surtout dans les centrales électriques.
Ouais, ça va impacter toute la chaîne, tu as complètement raison, toute la chaîne industrielle. Et aujourd'hui, on estime à peu près à 2 millions de tonnes par an les rejets de particules fines avant combustion et de cendres après combustion. À tout cela, ça entraîne des pollutions de l'air, du sol, de l'eau, parce que ça retombe aussi sur le sol. Et c'est bien sûr la grande raison, à mon avis, la santé publique mondiale pour laquelle il faut absolument faire diminuer la consommation de charbon. La France a pris par exemple la décision de fermer ses 4 dernières centrales électriques au charbon, hein, dès 2025, ce qui sera très bénéfique pour la santé publique, même si aujourd'hui ça paraît assez difficile à réaliser. On va voir si on y arrive, car même si elles ne produisent qu'un pour cent de l'électricité, elles contribuent fortement à combler l'intermittence des énergies renouvelables. Comme nous l'avons vu cette année, dès le mois de septembre, hein, octobre 2020, où il y avait une absence assez prononcée de vent, donc peu d'éoliennes qui marchaient. L'Allemagne, c'est un peu pareil, c'est un très gros producteur et aussi importateur de charbon, américain en particulier. Elle a décidé, elle, de fermer toutes ses centrales électriques au charbon à l'horizon 2038. C'est pas très loin de nous, hein. C'est même un tour de force pour beaucoup d'experts, quand on sait que le charbon, chez eux, c'est pas 1%, c'est 33% de l'électricité allemande. Et qui viennent même d'implanter leur dernière centrale toute nouvelle,
Tout
un
récemment.
monstre de. Oui, l'année dernière, un
Hey.
monstre de 1100 mégawatts. Donc c'est plus gros qu'une centrale nucléaire qui vient d'être implantée dans la Ruhr au bord du Rhin.
Oui. Et Marc, en plus de tout ce que tu viens de dire, les émissions de CO2 dues au charbon sont gigantesques. 1 kg de CO2 par kilowattheure d'électricité produit, plus que le double du gaz naturel. Sur le plan environnemental, la production d'électricité au charbon est le plus gros contributeur à l'émission des gaz à effet de serre. Ce bilan est assez catastrophique pour cette source d'énergie, Marc, qui est le charbon, dont l'utilisation, comme nous l'avons vu, ne cesse pas d'augmenter depuis l'année 2000. Mais Marc, il y a peut-être des moyens pour réduire les émissions des gaz à effet de serre et des particules fines. Compte tenu des réserves existantes et des intérêts économiques gigantesques dans le monde, il faudrait peut-être investir dans la recherche.
Oui, mais enfin, le charbon propre, Paolo, ça me paraît un peu être la quadrature du cercle quand même, hein. Même si les grandes entreprises d'extraction font toujours des efforts pour diminuer les pollutions de poussière avec des filtres de plus en plus fins, mais tout ceci coûte extrêmement cher. Or, le charbon, c'est l'énergie des pauvres. Donc, je crois plus finalement à une utilisation plus surprenante du charbon, exploiter le gaz contenu dont on parlait, le grisou, hein. Dans le charbon. Alors, soit directement par un puits horizontal dans la couche de charbon, c'est ce qu'on appelle coal bed methane en anglais, ou gaz de couche, dont la production est déjà importante dans un pays qui est l'Australie, dans l'est de l'Australie, soit aussi dans des galeries minières abandonnées qui servent un peu de puits finalement, on fore un puits dans la galerie qui sert alors de collecteur de gaz. C'est le gaz de mine ou le coal mine methane. Ce gaz, il est d'ailleurs déjà produit en France, dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, on est un peu en avance là-dessus, par la compagnie, la Française de l'énergie, qui a installé des turbines au gaz. Bon, c'est 10 mégawatts, je crois, de capacité électrique. C'est pas énorme, mais enfin, c'est déjà un bon début. Et donc, c'est marrant parce qu'on produit le gaz du charbon sans toucher au charbon, finalement. Donc, il n'y a pas de rejet de poussière, ni de méthane. Donc, c'est assez intéressant pour éviter les particules, non?
Tout à fait, Marc. Je suis très, comme tu sais, très favorable à l'utilisation du gaz méthane et qui permet d'éviter et de limiter fortement les émissions de gaz à effet de serre et notamment éliminer les particules fines qui sont très dangereuses, comme tu l'as déjà dit. Même si cela reste un peu technologique et va probablement être long et cher à mettre en place. Compte tenu des enjeux économiques et stratégiques et la grande répartition géographique du charbon, on l'a vu la dernière fois. Je me demande finalement si nous pourrons un jour sortir du charbon.
Bonne question, hein, on le voit avec cette nouvelle mine en Grande-Bretagne. Bon, mais je crois quand même qu'il faut qu'on essaye de tout faire pour diminuer nos consommations. Comme souvent, c'est quand même le client, le consommateur qui fait tout. Et nous avons bien montré ensemble toutes les nuisances de ce produit. Mais c'est vrai qu'il présente tant d'avantages économiques que ce sera, je suis d'accord avec toi, pas facile d'en sortir si on veut diminuer cette pollution majeure et puis éviter aussi le réchauffement climatique. Il faut sortir du charbon. Donc c'est, comme disent un peu de manière amusante les Américains, c'est choisir entre keep call ou keep cool.
Oui, tout à fait, Marc. Bon, nous allons maintenant faire une petite pause musicale, Marc, et nous reprendrons ensuite avec un autre sujet. Après cette petite pause musicale, sympathique d'ailleurs, Marc, nous quittons cette importante source d'énergie qui est le charbon et qui a énormément d'inconvénients pour l'environnement et pour la santé humaine, mais dont les impacts économiques et industriels au niveau mondial restent énormes. Nous allons donc passer à ce qu'on appelle les hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole et les gaz naturels, qui eux aussi ont bien sûr des inconvénients, mais moins importants que ceux du charbon. Commençons par donner quelques chiffres clé sur les hydrocarbures. En 2019, la production mondiale moyenne de pétrole a été de 95 millions de barils par jour, soit environ 35 milliards de barils sur l'ensemble de l'année. Et la consommation a été de 101 millions de barils par jour, donc 37 milliards à peu près sur l'année. On constate que donc la consommation est supérieure à la production en 2019. Et cela est dû aux stocks existants dans les différents pays, et surtout à l'ajout de biopétrole ou biocarburants issus de l'agriculture, comme la canne à sucre, le maïs et la betterave. Pour les gaz naturels, la production mondiale de 2019 a été de 4 000 milliards de mètres cubes et la consommation de 3 930 milliards de mètres cubes. Avec un niveau de consommation actuel, on peut estimer que les réserves prouvées de pétrole et de gaz auraient une durée de vie de l'ordre de 50 ans. Donc là, on peut aller voir les principaux pays producteurs de pétrole, mais on ne va pas faire une liste complète. Juste pour vous dire que le plus gros producteur, c'est les États-Unis, avec 17 millions de barils par jour, et une consommation des États-Unis de l'ordre de 20 millions de barils par jour. Donc les États-Unis ne sont pas du tout autosuffisants en pétrole. Après, nous avons bien sûr l'Arabie Saoudite, avec 12 millions de barils par jour et une consommation intérieure très faible. La Russie, avec 11,5 millions de barils par jour, et une consommation là aussi de l'ordre de 3 millions, donc pas très important. Après suivent l'Irak, le Canada et la Chine. La Chine a produit très peu, 4 millions de barils par jour, mais c'est le plus grand consommateurs du monde, avec 14 millions de barils par jour. Bien sûr, l'Inde a une très faible production et une consommation pas très importante, de l'ordre de 5 millions de barils par jour. Et bien sûr, le Japon aussi est un gros importateur. Par contre, Marc, la répartition des réserves de pétrole, ou plus précisément des réserves prouvées, c'est-à-dire la quantité de pétrole estimée pouvant être produite avec une probabilité de 90% à partir des réservoirs connus, des techniques classiques et des conditions économiques et contractuelles stables. Cette répartition de pétrole est différente.
Oui, Paolo, en effet, le pays qui a les réserves prouvées officielles les plus importantes, c'est le Venezuela aujourd'hui, avec un peu plus de 300 milliards de barils, suivi de très près par l'Arabie Saoudite. Et après, le Canada est à 170 milliards, l'Irak, 160 à peu près, l'Iran aussi. La Russie et le Koweït sont à peu près à 100 milliards de barils. Et les USA, elles sont bien loin derrière, à 70 milliards de barils. Il faut noter cependant que les réserves du Venezuela, pardon, et en partie celles du Canada aussi, sont représentées par des huiles lourdes dont la production est problématique en termes de coûts et d'impact environnemental, mais qui restent souvent exploitées car nous manquons aujourd'hui de bitume pour les routes. Ça paraît assez surprenant, mais il y a souvent des défauts d'approvisionnement là-dessus. Alors cependant, je voudrais faire une petite remarque. Je trouve que les chiffres de l'OPEC, hein, c'est l'organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole, sont sujets à caution. Ce sont plus des chiffres qu'on pourrait dire politiques, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité, qui, à mon avis, est bien moins florissante que ce qu'ils annoncent. Pour nous en convaincre, Paolo, il suffit de dire que les chiffres de ces pays, ne sont pas contrôlés, hein, à la différence de ceux des compagnies privées, qui doivent être déclarés en bourse tous les ans et peuvent être même audités très sérieusement par la commission boursière de la Bourse de New York, hein, qu'on appelle la SEC, SEC, que les réserves de ces pays de l'OPEC, Iran, Irak, Arabie Saoudite, Koweït, n'ont pas baissé depuis plus de 10 ans. On a toujours le même chiffre, malgré des productions massives réalisées dans les 10 dernières années. Donc ça devrait diminuer. Surtout qu'il n'y a pas eu de découverte significative, presque rien.
Bien sûr.
Donc ça paraît très optimiste, disons. Et puis, il y a un effet pervers, c'est que la base des productions des pays de l'OPEC est fonction de ses réserves. Ce n'est pas le seul paramètre, mais c'est un paramètre important. Donc plus un pays annonce de réserves, plus il a le droit de produire dans l'année. Donc plus il gagne d'argent, bien sûr.
Oui. Et pour les gaz naturels, Marc, les classements des pays producteurs est bien différent, bien sûr.
Oui, alors effectivement, le gaz naturel, c'est assez différent. On retrouve toujours les USA en tête, hein, ils produisent 920 milliards de mètres cubes par an pour une consommation de 850 à peu près. Donc, ils sont exportateurs de gaz, par contre, les États-Unis, depuis 6 ou 7 ans. Ils exportent une partie de leur production par des gazoducs vers le Mexique, et puis de plus en plus, une grande partie vers l'Europe et l'Asie, sous forme de gaz naturel liquéfié par bateau.
Oui, Marc, ces gaz des Américains, ces fameux gaz de schiste, ce qu'on appelle les gaz de schiste, qui est
Tout
obtenu
à fait, c'est la révolution du gaz de schiste, oui.
oui, par
Et ce
fracturation.
gaz de schiste, ben, il est liquéfié et puis mis à bord de bateaux qui traversent l'Atlantique ou le Pacifique pour aller en France, en Espagne, en Corée, au Japon.
Oui, juste pour ajouter que ces fameux gaz de schiste n'est rien d'autre que le méthane, hein, c'est du gaz naturel, quoi.
Ah, c'est le même, hein. Dans les 920 milliards de production, il y a le gaz de schiste en particulier.
Bien sûr.
Je ne sais pas combien c'est, mais à mon avis, largement plus de la moitié aujourd'hui. Ensuite, ben, il y a la Russie qui produit 680 milliards de mètres cubes annuels et qui en consomme 400 milliards à peu près, ou un peu plus. Ils sont donc très, très exportateurs, les Russes, principalement vers l'Europe, mais ils veulent aussi développer maintenant leur exportation en Chine. Ensuite, on a l'Iran. Alors, ça peut paraître étrange. 240 milliards de mètres cubes. L'Iran utilise beaucoup de gaz, mais c'est principalement, une grande partie, pour améliorer la récupération d'huile dans les champs d'huile. Le Qatar, ensuite, 180 milliards de mètres cubes. Le grand exportateur mondial avec la Russie, hein, parce qu'ils ont une consommation d'environ 40, donc ils ont 140 milliards de mètres cubes à exporter vers la Chine, vers l'Inde, vers l'Europe. Ensuite, la Chine, qui produit pas mal, la Chine, 180 milliards de mètres cubes, mais qui a une consommation très importante, qui est d'ailleurs en train d'exploser, hein, plus de 300 milliards de mètres cubes. Et ce sont donc les grands importateurs de gaz, comme pour le pétrole, comme tu le disais tout à l'heure. Et là, c'est les pays qui sont donc dépendants des importations chinoises, c'est le Qatar, l'Indonésie, l'Australie, qui sont très importants pour elle.
Oui, Marc. Et donc, concernant la réserve des gaz, comme pour le pétrole, quand on dit réserve des gaz, c'est la réserve prouvée des gaz. Quels sont les pays qui recèlent le plus de réserves?
Oui, Paolo, il y a trois pays majeurs, la Russie, l'Iran et le Qatar, qui sont en tête des grandes réserves mondiales. Environ 38 000 milliards de mètres cubes pour la Russie et 25 000 milliards de mètres cubes pour le Qatar, avec l'Iran au milieu. Ils sont suivis par le Turkménistan, hein, au sud de la Russie, environ 20 000 milliards de mètres cubes, et les États-Unis avec près de 13 000 milliards de mètres cubes. Puis ensuite la Chine, le Venezuela, l'Arabie Saoudite. Voilà pour donner une grande photographie.
D'accord. Juste pour donner un repère, Marc, pour la France, la consommation de pétrole en 2019 a été de 1,6 million de barils par jour, soit disons 600 millions de barils sur l'année, et pour les gaz naturels, 43 milliards de mètres cubes. La production nationale de pétrole est relativement modeste, de seulement 30 000 barils par jour, et qui provient essentiellement de la région parisienne, le bassin de Paris, et de l'Aquitaine. Toutes ces informations ont été tirées de la remarquable publication annuelle de la société BP, société anglaise, britannique. Cette publication s'appelle Energy Outlook, c'est-à-dire Perspective de l'énergie, qui est publiée tous les ans au mois de janvier. Cette publication est disponible sur le web en anglais sur le site www.bp.com. Et je vous invite à y aller. Il y a énormément d'informations et en plus sur tout type d'énergie. Voilà. Après cette revue rapide des chiffres clés, nous pouvons, Marc, passer en revue les aspects recherche, c'est-à-dire l'exploration, le développement des découvertes, l'exploitation, la commercialisation et bien sûr le transport vers les marchés de consommation des hydrocarbures. Comme nous l'avons vu, le charbon, commençons, Marc, par définir ce que sont les hydrocarbures, ainsi que leur genèse.
Oui, alors la génération de pétrole ou de gaz naturel ressemble à celle du charbon dont nous avions parlé lors de la dernière émission. Nous sommes toujours dans ce qu'on appelle un bassin sédimentaire, caractérisé par ces types de dépôts qui peuvent être d'origine détritique, un apport de matériel d'érosion de terres émergées, ou organiques comme les carbonates ou les matières charbonneuses, carbonées, à différents temps géologiques. Ce sont les restes de ces anciennes vies, une matière d'origine en général organique, végétale ou animale, qui s'enfouit au cours des temps géologiques dans les lacs, les mers, qui sont à l'origine de ces hydrocarbures. Parce que par enfouissement, c'est-à-dire quand d'autres dépôts se déposent sur ces couches de matière organique, sous l'effet de la pression et des températures croissantes avec la profondeur, la matière organique se transforme progressivement et génère des hydrocarbures liquides. Puis à des températures plus supérieures, plus importantes, les hydrocarbures gazeux. Alors tout ça se passe à peu près dans des températures, une fourchette, ça dépend un peu des endroits, entre 80 et 150 degrés C, et donc entre 3 000 et 5 000 mètres de profondeur. Alors toujours sous l'effet de ces pressions croissantes, ces hydrocarbures, ils vont avoir tendance à être expulsés, à sortir de ces couches de matière organique, qu'on appelle aussi d'ailleurs roche-mère en français, et à migrer. Donc ces hydrocarbures vont migrer, vont bouger pour aller se mettre dans des conditions d'énergie minimales, selon les lois de la thermodynamique. Lorsque, sur leur chemin, ils rencontrent un obstacle, nous disons, les géologues, un piège qui les empêche de poursuivre cette longue migration, ils s'accumulent et forment donc ce qu'on appelle un gisement.
Oui, Marc. Et comme nous avons dit pour le charbon, il faut trouver les bassins sédimentaires favorables à la génération et à l'accumulation des hydrocarbures. L'exploration pétrolière, Marc, commence par l'identification des indices permettant de supposer où se trouvent le pétrole et les gaz et en quelle quantité. Géologues et géophysiciens collaborent à cette enquête minutieuse à fort enjeu économique qui commence à la surface de la Terre pour descendre vers les sous-sols.
Oui, la géologie pétrolière, effectivement, ça commence par l'observation de la surface. C'est ça la première étape, comme tu le dis, qui permet de repérer des zones sédimentaires méritant ensuite d'être étudiées. Donc on regarde la nature des couches, les indices directs d'hydrocarbures. Il y a souvent des suintements, en fait, des plissements, les failles. Les géologues utilisent en particulier maintenant les photos aériennes et les images de satellites. Puis ils vont sur le terrain examiner les affleurements des sédiments qui sont présents dans ce bassin. Ces analyses permettent en effet d'avoir des informations sur la géologie en profondeur dans le bassin. C'est là que peuvent se trouver des gisements potentiellement économiques d'hydrocarbures. Ensuite, l'analyse en laboratoire, sous le microscope, des échantillons prélevés, permet de déterminer l'âge, la nature des sédiments et de cerner ainsi les zones les plus prometteuses. Mais cette étape ne représente que 5% du budget, je dirais, consacré à la prospection globale.
Oui, donc Marc, ces études sont réalisées pour trouver des bassins sédimentaires à terre. Qu'en est-il des bassins sédimentaires en mer? Les bassins ne s'arrêtent pas forcément à la côte, n'est-ce pas?
Alors sûrement, il ne s'arrête pas du tout à la côte même. Alors il est aussi possible de collecter des informations sur la géologie du bassin sédimentaire en mer grâce à des affleurements de roches sur les côtes, mais lorsqu'il c'est pas possible, on utilise des techniques géophysiques qui permettent de reconnaître l'existence de ces bassins en mer. On dit souvent des bassins offshore, de manière indirecte, sans le toucher.
Oui, c'est bien cela, Marc. Avec différentes techniques géophysiques, il est en effet possible de définir la présence d'un bassin sédimentaire. Pour cela, on utilise essentiellement trois méthodes géophysiques. La magnétométrie, qui mesure le champ magnétique terrestre et ses anomalies. La gravimétrie, qui mesure l'attraction gravitationnelle et qui est sensible aux densités des roches. Et la sismique. Ces deux premières méthodes sont utilisées essentiellement en phase de pré-reconnaissance. Par contre, la sismique est de loin la technique nécessaire et indispensable pour mener l'exploration d'une zone et éventuellement implanter un forage d'exploration. Il y a deux méthodes sismiques, la sismique dite réflexion, dont nous vous avons déjà parlé dans une émission précédente, et la sismique réfraction, qui elle aussi est plus utilisée dans la grande reconnaissance régionale. Toutes ces méthodes sont des méthodes indirectes, c'est-à-dire on utilise et on interprète des mesures issues de ces méthodes pour déduire la présence d'un bassin sédimentaire. Les séquences et les types des roches, la présence des failles, l'architecture des couches, et tout cela sans vraiment les voir ou les toucher. Ça ressemble en effet aux méthodes indirectes utilisées en médecine pour diagnostiquer une pathologie ou un suivi comme les fractures, l'évolution d'une grossesse. Ce sont des outils comme la radio, les rayons X, les scanners qui fonctionnent aussi avec des rayons X, l'IRM qui est magnétique ou l'échographie qui utilise des ondes sonores. Bien sûr, Marc, notamment en mer, il faudra vérifier les interprétations des données issues des méthodes géophysiques par la réalisation d'un forage de reconnaissance ou d'exploration qui permettra de valider ou pas les hypothèses sur les séquences géologiques du bassin.
Oui, tu as raison. À terre, il est plus facile de définir le type et la séquence de roches d'un bassin sédimentaire. En mer, offshore, comme on dit, les informations obtenues le sont grâce à des forages qui sont indispensables pour valider et confirmer les séquences géologiques du bassin qu'on a reconnues sur la sismique.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs. Nous nous arrêtons là. Dans la prochaine émission, nous continuerons à vous parler des hydrocarbures, c'est-à-dire du pétrole et du gaz. Comme vous le savez, si vous voulez réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur notre site web www.radiograndciel.fr et aussi, nous vous invitons à nous écrire pour nous poser des questions ou pour nous donner votre avis sur l'émission ou encore pour nous faire des suggestions. À bientôt.
À bientôt à tous.